On a vu que les flammes directement à droite de notre chambre sortaient facilement d'un mètre, 82 mètres à ma hauteur. Là, on s'est dit que c'était plus une blague. Donc à ce moment-là, on court à l'arrière du bateau, on descend, on se réunit. J'ai un petit moment d'éclaircie où je me dis il y a quand même des extincteurs, il faut essayer de faire quelque chose. J'ai servi 3 extincteurs. Je me suis très vite rendu compte qu'ils étaient vides ou obsolètes. Et en fait, c'était trop tard. Donc là, en redescendant, on sait qu'on doit trouver le moyen de quitter le bateau le plus rapidement possible. On avait 2 canots desquels on utilisait pour partir plonger autour des récifs. On a embarqué sur ces canots pour s'éloigner le plus vite possible du bateau, quoi. Le bateau, il a vraiment brûlé très très vite. C'est-à-dire, en 15 minutes, on était peut-être à 300-400 mètres du bateau, on entendait les déflagrations. Ouais, c'était impressionnant.
Vous êtes sur les canots, qu'est-ce qui se passe ensuite?
On a commencé à se rendre compte qu'en fait, on n'avait pas de gilet de sauvetage, il n'y avait pas de pistolet d'alarme, de lance-fusée, il n'y avait pas de sirène, il n'y avait pas de lumière. On ne savait pas vraiment si on avait pu prévenir les gens. Premier canot de sauvetage avait un moteur avec de l'essence, mais le deuxième ne l'avait pas. On a attaché le deuxième canot. Chaque fois qu'on tractait le deuxième, puis que la corde se tendait comme une voiture de remorquage, notre arrière du bateau, il s'enfonçait dans l'eau. Donc on prenait vraiment drastiquement l'eau. On a dû décider, ça c'était vraiment le moment le plus difficile, on a dû décider de se séparer du deuxième canot pour pouvoir mettre vraiment les gaz pour aller jusqu'au bord. En se disant qu'on pourrait retourner les chercher ou au moins prévenir les gardes-côtes, quoi. Et on a commencé à suivre les lumières au loin parce qu'on était à peu près 15 km des côtes. Donc on est resté à peu près 3h30, 4h sur ces canots. Et plus on approchait de la côte, plus on se disait que l'espoir revenait et on a commencé à avoir du réseau. Là, on a pu téléphoner au numéro d'urgence garde-côte et le deuxième est resté encore 1h30 en mer avant qu'un plaisancier de plongée les retrouve, quoi.
Tout le monde est sain et sauf?
Malheureusement, non. On a appris beaucoup plus tard, c'est-à-dire presque 8 heures après avoir été mis en sécurité dans un hôtel, qu'une des passagères n'était pas montée dans les canots. Aux dernières nouvelles que j'ai eues, selon les rapports de l'Égypte, elle est considérée encore comme disparue.
Est-ce que, avec le recul ou même sur le moment, vous vous êtes dit sur ce canot, je ne vais jamais remettre un pied sur terre?
Mon épouse et moi, on était dans le même canot. Elle n'a jamais perdu l'espoir. Moi, j'avoue que quand on avait des creux de 3 mètres, qu'il faisait nuit noire et qu'on prenait l'eau, je me suis posé la question comment ça allait se passer de se noyer. Et puis quelle était la façon la plus logique, si on devait nager jusqu'au bout, si on devait se laisser flotter jusqu'à ce que... Ouais, il y a vraiment 3 ou 4 moments où on se dit c'est terminé.
À présent, vous êtes de retour à Seignelay-Gier. Comment vous vous sentez?
La vie, elle continue, mais on se sent un petit peu toujours surpris de la manière dont les choses sont passées après coup, quoi. Ce qu'on doit vraiment retenir de ça, c'est qu'on part un peu trop les yeux fermés. On ne s'assure pas de savoir qu'est-ce qui va sauver notre vie. On se dit que ça peut arriver qu'aux autres. Là, ce n'est pas arrivé qu'aux autres.